Les amis de la famille, les affaires étrangères, une influence, c'est la règle de trois de Hubert Védrine. Parmi les amis des parents Védrine figure le journaliste Jean Lacouture qui marquera durablement le jeune Hubert. Le reporter a parcouru le monde tout au long de sa carrière et s'est notamment intéressé de très près à la guerre du Vietnam.
Les Américains veulent démontrer au peuple du monde qu'il n'est pas payant de choisir pour son émancipation la voie du marxisme-léninisme, que c'est cher.
Adolescent, Hubert Védrine souhaite devenir journaliste, mais sa réussite au concours de l'ENA l'engage sur une autre voie. Un autre ami de la famille, François Mitterrand, offrira un parrainage décisif à la carrière d'Hubert Védrine. En mai 1981, le président élu le nomme conseiller diplomatique. Au début du deuxième septennat, Hubert Védrine devient porte-parole de l'Élysée.
Le président de la République a notamment déclaré « J'ai besoin, pour mener à bien ma mission, d'une majorité stable. »
De 91 à 95, il occupe le poste de secrétaire général. « J'avais une telle fascination pour Mitterrand, dit-il. Je n'ai eu qu'une idée pendant ces 14 années, rester auprès de lui. » Ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin entre 97 et 2002, Hubert Védrine évoque souvent cette période en utilisant l'expression « réal politique ». Il fuit les dogmes et s'éloigne de ceux qu'il appelle les droits de l'homiste. Ces cinq années au Quai d'Orsay sont notamment marquées par la guerre du Kosovo. En 1999, après un an et demi de négociations stériles, il codécide de lancer les frappes de l'OTAN sur la Serbie de Milosevic.
L'objectif n'a pas changé. On veut toujours trouver un mode de coexistence entre les Kosovars et les Serbes.
Depuis 2003 et la création de son cabinet de conseil en stratégie politique, il exerce une influence certaine dans les secteurs privés et publics. Il rédige également des rapports pour Nicolas Sarkozy et François Hollande. Fin mars, l'Élysée lui a demandé de représenter la France au sein d'un comité chargé de penser l'avenir de l'OTAN. Il accomplit ses missions sans aucune arrière-pensée politicienne, dit-il. Concernant Emmanuel Macron, il concède néanmoins qu'il l'aime bien et ajoute même « Quand il dit des choses insolentes qui énerve tellement de gens, ça me fait plutôt sourire. »
Hubert Védrine avec nous à propos de « Et après », nouvel essai chez Fayard. Hubert Védrine, le dérèglement climatique, 38 degrés relevés il y a deux jours au nord de la Sibérie, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des sols, ça urge, disent tous ceux qui s'intéressent de près ou de moins à la manière dont l'humanité est en train de rendre la planète plus du tout vivable. Et pourtant, vous dites, l'écologie doit raisonner en termes d'étapes, de compromis. Vous récusez cette notion d'urgence ou de radicalité.
Mais non, je ne peux pas la contester, mais en pratique, ça veut dire quoi? Par exemple, même si on pense qu'on mange trop de viande et que du coup, ça entraîne la déforestation pour planter des aliments pour bétail, qu'il faudrait corriger tout ça, vous allez du jour au lendemain, qui est-ce qui va décider ça? Un dictateur mondial va mettre au chômage 50 millions de gens sur toute la planète, c'est idiot. Les gens qui sont radicaux, ils n'ont aucune solution. En plus, ça ne sert à rien de pénaliser, d'engueuler les gens. Personne ne s'élève le matin en disant « qu'est-ce que je peux faire pour détruire la vie sur la planète ?»
Donc,
des gens
il faut...
qui vivent comme ils peuvent, ils n'ont pas le choix, donc il faut offrir des alternatives. Il faut accélérer, par exemple. Ce qui manque typiquement dans les propositions à peu près toutes punitives là, de la Convention, c'est...
La convention citoyenne. Des citoyens pour le climat.
Le concours mondial pour inventer des climatisateurs qui n'émettent pas de CO2. Ça, c'est urgent. Vous voyez, c'est un bon exemple. L'invention de la batterie qui permettra de stocker l'énergie solaire pendant longtemps, ce qui permettra de sortir du pétrole et du charbon. Alors que Mme Merkel, qui est sortie prématurément du nucléaire, elle a relancé le charbon, par exemple. Vous voyez.
Donc votre propos est de réconcilier l'écologie et l'économie, et certainement pas de les opposer.
Bien sûr, ça ne sert à rien, c'est dépassé. Mais malheureusement, les écologistes historiquement, qui ont été marqués par les Verts allemands, qui étaient en lutte contre le nucléaire militaire américain en Allemagne, enfin bon... Bref, ils ont été dans une impasse pendant 20 ou 30 ans, il faut dépasser ça. Et pour entraîner les gens, comme on ne va pas y avoir une dictature mondiale qui va imposer les mesures du jour au lendemain, n'oublions pas que le problème, ce n'est pas chez nous. Grâce au nucléaire, nous, on n'émet que 1% de l'effet de serre du monde. On est l'économie la moins carbonée des pays développés. Donc la question, c'est la Chine et l'Inde. Donc il faut créer un mouvement... Et c'est à ça que j'essaie de contribuer par mes idées.
Alors, un secteur qui émet 24% du gaz à effet de serre mondial, Claude.
On en parlait de l'agriculture et de la consommation de viande. S'il n'y a pas de dictature mondiale envisageable, par quel processus peut-on nous convaincre, nous tous, sur cette planète, de changer nos modes de vie alimentaires, de renoncer tout ou partie à la viande?
Non,
vous êtes végétarien, vous?
Non, non, pas du tout.
Pas du tout.
Il n'est pas question de devenir végétarien.
Et même pas flexitarien.
Non, je ne sais même pas ce que c'est, moi.
Bah, un peu végétarien.
Un peu tout. Donc, comment
fait-on... Manger du poisson le vendredi, par exemple.
Peut-être.
Ça se faisait dans le temps. Comment fait-on pour enclencher la marche arrière vers la modération en matière de viande?
Non, pas la marche avant, pour modérer, encadrer... Alors, il y a le mouvement des opinions, mais nous, l'Europe occidentale, on n'est qu'une partie du truc. Et pour créer des alternatives, petit à petit, par des phénomènes de campagne de santé publique. Même aux États-Unis, Mme Obama essaie de réhabiliter la culture des légumes, le potager. C'est très compliqué parce que les populations occidentales sont caricaturales sur ce plan. Donc ça va s'étaler sur quelques années. Les organismes agricoles qui disent « on ne peut pas changer, on ne peut pas se passer de glyphosate du jour au lendemain », il faut leur dire « d'accord, vous ne pouvez pas tout de suite, mais dans 2 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire ?»
C'est ça le compromis.
Dans 5 ans.
Il faut remettre des calendriers précis, des points de plan d'étape.
Oui, il faut en mettre, parce que, encore une fois, personne n'agit ou se comporte pour détruire la vie sur la planète. Personne ne fait ça. C'est le but de personne. Donc il faut trouver des orientations. Il faut donner des alternatives. Donc il faut beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations. Mais heureusement, il y a des millions de chercheurs dans le monde qui travaillent à des systèmes d'usines qui recyclent presque tout, des molécules moins dangereuses que celles d'aujourd'hui, qui travaillent sur la captation du CO2, qui travaillent sur l'ingénierie climatique. Il y a un mouvement énorme. Donc tous ceux qui ont dit au début du confinement, c'est une occasion géniale, on va se débarrasser des contraintes climatiques, non. Presque toutes les autorités ont appris, y compris Mme von der Leyen pour l'Europe, a dit non. La question écologique est toujours là. Donc je pense que le mouvement est enclenché. Autant être dedans, intelligemment, mais il faut beaucoup d'investissement. Et donc, faut pas en rester à des mesures voyez, punitives, statiques et régressives.
Coercitives. Alors, on va...
Personne derrière.
On va évoquer avec vous, Hubert Védrine, la Convention citoyenne pour le climat, en l'occurrence des citoyens tirés au sort, et pas des experts ou des scientifiques, à propos du CETA.
Oui, donc une de leurs propositions, c'est de refuser de ratifier le CETA et de le renégocier. Le CETA, c'est donc cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui est accusé de bien des mots par des ONG, par Nicolas Hulot, qui est très hostile. Pour ne citer quelques-uns des griefs, on peut parler de la baisse des droits de douane qui provoquerait donc l'augmentation des échanges et l'augmentation in fine des émissions de gaz à effet de serre. Ce traité, il encouragerait également l'investissement dans les énergies fossiles et ça découragerait la production locale. Et puis l'alignement des normes européennes sur les normes canadiennes qui sont moins contraignantes, ça nous tirerait vers le bas. Et cette convention citoyenne, elle va quand même plus loin puisqu'elle veut inscrire dans tous les accords commerciaux à venir dans les prochaines années le principe de précaution et le respect des engagements de la COP21. Vous êtes assez critique, je crois, sur cette convention-là, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça
veut dire qu'au nom, en tout cas, du souci climatique, de l'urgence climatique, il faut sacrifier...
L'urgence écologique, climatique.
Il faut donc sacrifier les accords commerciaux ?
Non, on ne va pas les sacrifier.
Le commerce international, il faut...
On ne trouvera jamais une majorité en Europe pour dire on les abandonne. Le commerce international a enrichi phénoménalement l'ensemble de l'humanité depuis 30 ou 40 ans, a fait sortir d'une pauvreté immonde des centaines de millions de travailleurs ou de paysans asiatiques. Les autres veulent continuer. Nous, on dit maintenant, il faut intégrer ça, qui n'était pas intégré avant. Donc je ne pense pas qu'à l'avenir, sur cet accord-là, ça mériterait réflexion de façon plus détaillée, mais à l'avenir, il faut intégrer ces éléments dans les prochains accords. Mais on ne va pas renoncer au commerce.
Donc vous êtes d'accord avec eux ?
Non, pas sur le rythme, pas sur l'exigence, c'est tout catégorique, c'est fermé, on a l'impression qu'il faut tout changer du jour au lendemain, ils n'ont aucun moyen pour l'imposer. Simplement, la plupart des pays d'Europe vont dire, il faut quand même continuer, il faut intégrer le plus possible par étapes. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins que ce qu'on fera dans 10 ans, les critères que vous avez cités, mais on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Il y a des économies européennes qui ne fonctionnent que comme ça. Regardez le point de vue des Néerlandais là-dessus, n'est pas le même, vous voyez.
Donc,
mais si c'est pour et contre à l'instant T, on s'en sortira jamais. Si c'est un processus progressif. Je pense que tout est soluble par des sorties par le haut et par la dynamique. Et je ne parle pas que d'écologie dans le livre, parce que je ne veux pas décourager ceux qui s'embêtent énormément.
Vous pensez toujours que c'est rédhibitoire ?
Pour une partie des gens. Non, la plupart des gens suivent le mouvement, mais en râlant, quoi, en fait.
Pas tous, Hubert Védrine.
Bien sûr.
Et après,
une avant-garde.
Hubert Védrine, qui fait partie de cette avant-garde, bien sûr. Chez Fayard, merci.